On vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
La culture était à l'honneur et s'est exposée il y a quelques jours à Niort. C'était la 9e édition du Salon du Livre, une nouvelle page, réalisée à l'initiative de son président. Bonjour Monsieur Van de Biel, pouvez-vous vous présenter et nous raconter un peu la genèse, l'histoire de ce Salon du Livre ?
Oui, bonjour à tous. Voilà, donc en fait l'histoire, on est passé de Salon du Livre à Festival du Livre. Donc effectivement, c'était la 9e édition. Donc l'histoire de ce festival, c'est en fait, je suis auteur, je suis écrivain moi-même, et donc quand j'ai commencé à écrire mon premier livre qui était sur la préhistoire, dont le titre est « Celui qui chasse avec les tigres », en fait j'ai fait tout un tas de salons du livre, et finalement, au fur et à mesure, je me suis dit, ben comment ça se fait qu'à Niort, il n'y a pas de manifestation littéraire comme ça. Donc, avec mon épouse qui est la vice-présidente, donc on a fait, on a créé une association qui s'appelle le Donjon des Livres, et donc à partir de là, donc on s'est lancé dans une première aventure. Ça a été compliqué, mais on a réussi. Et donc là, on en est à la 9e, et l'année prochaine, on sera donc à la 10e édition, et on espère pour la 10e édition du Festival du Livre de Niort frapper un grand coup.
Pouvez-vous nous dire quand même les grandes lignes de ce bilan ? Quels ont été un petit peu les résultats de cette 9e édition en termes d'exposants, en termes de fréquentation ? Je crois qu'en 2022, vous avez eu 2400 entrées, par exemple. Pouvez-vous nous dire un petit peu le bilan que vous en tirez ?
Alors en fait, le bilan, nous sommes extrêmement contents, nous sommes extrêmement satisfaits du bilan. Donc nous avons eu un petit peu moins de fréquentation, parce que l'année dernière, on avait à côté de nous, on avait Japanior, et les organisateurs de Japanior ont fait jouer en fait les relations entre associations. Et donc en fait, ils nous faisaient suivre des visiteurs, et nous on les faisait suivre sur Japanior. Donc effectivement, on a eu cette année, au lieu de 2400 visiteurs l'année dernière, on a dû en avoir à environ 2100, donc un petit peu moins. Bon, le reste est extrêmement favorable, en fait, on est très 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 content du résultat.
Les nouveautés, l'invité principal.
Oui, on avait effectivement un invité principal, Delphine Giraud, qui est une personne vraiment très simple, très gentille, malgré un parcours littéraire vraiment en haut de gamme, comme on peut dire en fait. Et donc effectivement, elle a été sur le stand de Leclerc Culturel, et donc elle a eu énormément de monde en fait pour présenter non seulement ses livres, mais en plus les dédicacer. Donc effectivement, l'ensemble de cette manifestation est quelque chose de super. Donc on avait également l'association Lire et Faire Lire, qui fait lire, et effectivement des bénévoles lisent des livres aux enfants. On avait un espace jeune, on avait également une autre, ça me revient pas effectivement. Donc on avait effectivement eu plusieurs activités. Mais le plus gros, en fait, c'est quand même les auteurs et les maisons d'édition.
Combien d'auteurs, et puis quelles nouveautés il y avait cette année, s'il y en avait ?
Alors, les nouveautés, en fait, on s'arrange toujours pour faire tourner environ 20-25% de nouveaux auteurs. Donc, de toute façon, c'est très varié, parce que nous sommes salon généraliste et jeunesse, donc on veut toujours qu'effectivement, il y ait un certain turnover qui se fait. Donc, il n'y a pas eu, mis à part notre invité d'honneur, Delphine Giraud, il n'y a pas eu de nouveautés extraordinaires, mais on reste toujours dans la même optique de faire rencontrer le public, tous ces auteurs qui, certains viennent de loin quand même. J'ai une notoriété a largement dépassé les frontières du Poitou-Charentes.
D'accord. Donc vous écrivez des livres, mais vous êtes également lecteur, j'imagine. Quel lecteur êtes-vous? Quelles sont vos lectures favorites?
Alors en fait, je vais vous surprendre, je ne suis pas du tout lecteur. Pour la bonne raison, c'est qu'en fait, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, effectivement, pour l'organisation du Festival du Livre. Là, on a terminé le dernier week-end de septembre. Et donc, la semaine qui a suivi, on fait des arrêtés de compte, on fait tout ça, tout ce qui est suivi. Là encore, on est encore sur des arrêtés de ce Festival du Livre. Mais néanmoins, on a quand même commencé à préparer celui de 2024.
Justement, j'ai bien entendu effectivement que vous aviez déjà des projets. Pouvez-vous nous donner quelques scoops, quelques idées déjà qui sont en cours?
Alors, en fait, on est en train de solliciter une auteure qui est très connue. Je ne peux pas vous dire son nom du fait qu'on n'a pas eu de réponse de sa maison d'édition. Mais voilà, donc on va marquer le coup pour ces 10 ans. Il y aura une soirée le samedi soir. On espère que on va demander aux auteurs qui s'habillent bien, tout ça, pour faire quelque chose de sympathique au niveau des peupliers.
Donc vous écrivez des livres. Pouvez-vous un petit peu nous parler de ces livres que vous écrivez?
Alors, en fait, avec grand plaisir, parce que l'écriture, pour moi, ça a toujours été une passion, écrire des livres sur des sujets qui m'interpellent et qui m'intéressent, c'est vraiment une passion. Je suis atypique par rapport aux autres auteurs, et les auteurs qui, effectivement, se cantonnent à un style littéraire, polar, historique, roman d'amour, tout ça. En fait, moi, j'ai la chance, de par, disons, mon inventivité et par mon esprit en fait qui est assez très très ouvert en fait, de pouvoir écrire sur tout un tas de sujets. Alors j'ai commencé par écrire sur la préhistoire, hein, donc qui reste malgré tout mon sujet de prédilection et qui même au-delà de là qui est ma passion, qui est une passion sur la vie de nos ancêtres. Donc j'ai écrit 2 livres, le premier s'appelle « Celui qui chasse avec les tigres » et le second, la suite, qui est « Le temps des mammouths ». Donc ces 2 livres, en fait, sont ma version, ma vision de la préhistoire, de la venue de nous, l'Homo sapiens, dans l'ouest de l'Europe, qui était occupée par l'homme de Néandertal. Donc ça, c'est une première chose. Après, je me suis lancé effectivement dans les romans d'aventure contemporains. Donc il y a toute une série de livres, en fait, il y en a 4. Donc c'est L'arbre aux pommes d'or, ça démarre avec l'arbre aux pommes d'or, effectivement. Elle recherche l'Eldorado, après il y a une enquête à Saint-Malo. Après, ce sont les mêmes personnages sur les 4 livres. Et donc sur le 3e livre, c'est les personnages vont à la recherche de documents qui existent et qui datent de l'Indochine française et qui sont des documents surprenants. Donc et qui ne sont pas effectivement à la connaissance de tout un chacun. Et le dernier, en fait, c'est une enquête sur des personnes qui ont disparu, et une partie du livre en fait se passe dans un château hanté. Et en fait, bizarrement, mon livre a un succès énorme. D'ailleurs, c'est simple, j'en ai plus, il faut que j'en recommande. Voilà. Et donc je me suis lancé dans la guerre de 100 ans. Alors là, ça a été extraordinaire. Je pensais pas trouver et rechercher toutes ces informations, parce qu'en fait, la guerre de 100 ans, je l'ai racontée à travers un personnage imaginaire qui s'appelle Willem le Bâtard et qui est un gueux. C'est une petite gueux, en fait. Voilà. Et donc, ces 4 livres, en fait, c'est la vie de ce personnage qui évolue. Donc, le premier, c'est dans sa jeunesse. Le second, il est plus grand, il rejoint du Guesclin. Et voilà, donc, c'est tout un ensemble. Et je le conseille fortement pour les gens qui s'intéressent à la guerre de 100 ans. Parce qu'en fait, j'ai la prétention, la très grosse prétention, de dire qu'à travers lire mes livres, vous apprenez la guerre de 100 ans.
Et alors ces livres, on peut les trouver où ?
Ben en fait, vous les trouvez partout. Alors, vous les pouvez les trouver dans toutes les librairies. Il suffit de dire, de donner mon nom, Michel Vandiel, et puis la maison d'édition édite livres. Et puis après, ben, suivant le genre que vous souhaitez, en fait, vous le commandez. Alors, par contre, j'ai un dernier livre qui est sorti à EFI, qui est 12417. Là, je me suis projeté dans le futur d'un autre planète. Je suis parti de 50 000 ans. Avec la préhistoire, je me suis projeté 12417. Bon, on sait très bien que effectivement les ressources de notre Terre ne sont pas inépuisables, donc effectivement, donc il va se passer tout un tas de choses. L'avenir nous le dira. Donc j'ai passé tout ça. J'ai préféré écrire sur la recherche d'une planète, une planète pour que notre espèce puisse vivre et puisse vivre en paix. Voilà.
Eh bien, écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour, Delphine Giraudon. Vous êtes l'invitée principale de ce Salon du Livre. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour. Oui, voilà, je suis autrice chez Fleuve Éditions et Pocket. Depuis maintenant 5 ans, j'ai sorti mon premier livre en auto-édition en 2018. Et j'ai commencé chez Fleuve l'année d'après.
Cette écriture du livre, ça vous est venu comment ?
En fait, j'ai ça en moi depuis vraiment toute petite. J'aime écrire, j'aime les mots, j'aime l'alliage des mots. Et j'aime aussi, surtout, avoir l'imagination tout le temps débordante.
Vous avez décidé, donc, il y a peu, de devenir professionnelle. Et c'était quoi votre métier avant ?
Je travaillais dans les ressources humaines, dans une entreprise privée. Ils demandaient, en fait, de plus en plus de temps. Donc, les deux métiers devenaient compliqués à être à sa vie.
Ce prochain roman, donc, il paraîtra...
Voilà, au premier semestre, j'ai pas encore de période précise, mais au premier semestre 2024.
Bien, bah, je vous remercie.
Delphine Giraud était l'invitée principale de ce Salon du Livre. Elle a été interviewée par Madame Vandelviel. Je vous invite à écouter cette interview.
Moi, j'ai vu aussi que une grosse partie de vos livres, ils sont en version poche, en audio et en gros caractères. C'est un travail qui se fait après la sortie du livre. Combien de temps après ?
Alors, le livre de poche, il sort en général un an après sa sortie en grand format. Sachant qu'en général, c'est couplé à la sortie du prochain grand format avec le poche. En fait, c'est une sortie couplée qui permet de dynamiser aussi le livre, enfin l'ensemble. Et après, ben, tout ce qui est audio, tout ce qui est gros caractère ou tout ce qui peut être différent, ça arrive au fur et à mesure. Par exemple, c'est Doucement René les jours est sorti en version audio en mai 2022. Et là, j'ai appris récemment que mes trois autres romans, dont le premier aussi qui est pourtant sorti avant, vont sortir en version audio en fin d'année là. Donc, en fait, il peut toujours y avoir des choses qui tombent. J'ai eu du François Zir, j'ai eu, et puis peut-être l'espoir un jour une version en anglais, je ne sais pas, à l'étranger en tout cas, ce serait bien.
Donc, vous disiez qu'il y a 5 ans, vous projetiez votre premier roman. Entre le rêve d'écrire et de se dire que l'on va jusqu'au bout, il s'est passé combien de temps ? Qu'est-ce qui vous a tenu beaucoup plus à cœur ?
Eh bien, pour parler du premier, donc 6 ans à t'attendre, il m'a fallu 15 ans pour l'écrire, déjà. Donc c'est pas rien, c'est 15 ans, c'est pas des 15 ans d'écriture à fond, hein. Ça a été à un moment donné, j'ai commencé, après j'ai arrêté, j'avais écrit une version et puis la vie a fait que je me suis pas penchée sur la question plus que ça. Et après, à un moment donné, je l'ai écrit en 2017, j'ai dû le finir, pour la énième fois. Et là, je me suis dit, ben, il y a personne qui va venir toquer à ta porte en disant, vous avez un manuscrit dans le tiroir, il faut le sortir. Personne ne va prendre ma vie en main, en fait. Il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, c'est ça, en fait. C'est le fait de se dire, tout ne tient qu'à toi. Si tu dis toujours, je rêve, un jour, j'écrirai un livre. Oui, tu l'as écrit, ça y est, maintenant, il faut oser aller au bout et puis voir si ça valait le coup d'être rêvé, comme je disais tout à l'heure.
Comment vous envisagez-vous l'écriture ? Comment ça commence chez vous ?
Alors, en général, c'est quand j'ai mis le mot fin à mon dernier roman Je me dis, bon, ça y est, je suis tranquille, je peux me reposer un peu. Et en fait, ça n'arrive jamais parce qu'il y a de nouveaux personnages qui viennent me voir et qui me disent, ça y est, c'est mon tour. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu parles de moi. Et en fait, il n'y a jamais de pause. Donc, ça vient de... Mon imagination, en fait, elle fonctionne tout le temps. J'emmagasine beaucoup de choses, tout ce que je vis, tout ce que je vois, ce que j'entends. C'est comme ça, hein. Je ne sais pas pourquoi, je suis faite comme ça, j'emmagasine tout. Et à un moment donné, bah, comme j'évoquais, les tiroirs, voilà, je renferme tout dans des tiroirs et quand j'ai besoin, je vais piocher dedans. Et parfois, le tiroir s'ouvre tout seul et c'est le moment d'aller explorer dedans ce qu'il y a, quoi. Donc j'ai besoin d'être nourrie tout le temps par des personnages, par des histoires. Voilà, je dirais que c'est peut-être presque plus fort que moi, quoi.
Enfin, vous allez à la rencontre de ces personnages. Enfin, comment vous voyez ces personnages vivre ? Est-ce que vous imaginez un scénario à l'avance qui va jusqu'au bout et vous écrivez tout comme c'était prévu ? Ou alors vous commencez à écrire quelque chose et qu'ensuite, en vous relisant, vous vous dites « mais c'est peut-être pas comme ça que je le voyais, c'est peut-être autrement ». Est-ce que vous vous y reprenez des fois, plusieurs fois ?
Alors, ça dépend des romans, mais oui, effectivement. En fait, des fois, je me dis, ça y est, j'ai trouvé ma technique, maintenant, ce sera comme ça que je vais faire. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas vrai, parce que ça dépend des histoires, ça dépend comment sont les personnages, etc. Il y a eu, par exemple, pour le dernier, donc, qui n'est pas encore sorti, hein, qui paraîtra l'année prochaine, et ben voilà, je m'étais dit, tiens, je vais partir sur cette histoire. Donc, en général, par contre, quand je pars dans une histoire, je sais le début, je sais le milieu, je sais la fin, je sais à peu près tous les gros événements qui vont se passer. Je connais tous mes personnages, j'ai fait des fiches par personnage, donc je sais leurs caractéristiques physiques, leur caractère, leur histoire. Je sais beaucoup plus de choses d'eux que le lecteur ne va en savoir. Mais c'est pas grave, en fait. Le but, c'est de... Comme si c'était un ami, et puis c'est plus facile de s'imprégner d'eux, en fait, après. Et donc, je sais déjà tout, mais par contre, je sais que forcément, à un moment donné, il y a un personnage qui va prendre plus de place que j'avais prévu pour lui. Ça arrive très souvent. Et je sais qu'aussi, je me laisse la liberté de... Quand je suis en train d'écrire, ben, je me dis, ah ben oui, là, il pourrait se passer ça aussi. Ça pourrait être pas mal. Et ça, je me laisse cette liberté-là parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Tant qu'on n'a pas écrit certains passages, on ne peut pas voir, en fait. Donc, mon plan, il est fait à l'avance, mais il est quand même assez libre. Donc, je peux changer à tout moment. Et donc, mon dernier roman, j'avais prévu le début, le milieu, la fin, tout était clair, et ça passait plutôt pas mal. Et en fait, une fois que j'étais dedans, ben, je me rendais compte que non, ça n'allait pas du tout, en fait. Je m'enlisais dans quelque chose qui n'avançait pas, et je ne voyais pas ce qui me manquait, mais je savais qu'effectivement, ce n'était pas bon. Et quand c'est comme ça, il faut être capable aussi de se dire, bon, allez, j'ai écrit 150 pages, ben, c'est pas grave, ces 150 pages-là, je vais les mettre de côté, et puis je vais recommencer. Et peut-être qu'il y a des passages aussi que je vais reprendre, et puis le personnage en soi, il est déjà travaillé, donc c'est pas du travail pour rien, en fait. Mais il faut être capable, parfois, de tout reprendre si besoin. Et ça m'arrive aussi de temps en temps.
Vous parliez de fiches techniques. Et les fiches techniques, vous les faites en amont? Et vous travaillez ensuite sur vos tapis. On dit un tapuscrit, on ne dit pas un manuscrit. Un manuscrit, c'est quand il est fini, on est d'accord? Oui. Donc, c'est des fiches comme ça, ou c'est dans vos petits cahiers? Et dans vos cahiers, vous commencez déjà à énumérer vos personnages, savoir comment ils sont? Puis ensuite, vous commencez à écrire votre histoire.
En fait, je commence à écrire donc dans mes cahiers, effectivement. Moi, j'écris beaucoup à la main. Donc, j'écris mes personnages dans mes cahiers. Donc, chaque personnage en a un. Je vais écrire aussi dans mes cahiers l'histoire, en fait, le résumé, vraiment très bref. Je vais écrire toutes mes recherches. Voilà, j'ai besoin de faire des recherches sur tel et tel thème. Bah, je vais écrire... Sur tout ce que je trouve. Et puis après, je vais commencer. Alors là, il faut être capable de se dire, bon, ça y est, j'ai fini les recherches, je vais commencer. Parce que aussi, le travail de recherche, il faut dire que c'est fastidieux parce qu'en fait, on a hâte de s'y mettre, de se mettre à l'écriture. Quand on aime ça, voilà, on a hâte de se plonger vraiment dedans. Et donc, quand on commence, ben moi, en fait, je commence à la main. J'écris mon premier chapitre à la main. C'est pas forcément bien écrit, en fait, mais je m'en fiche. C'est juste pour savoir ce que je veux y mettre dans ce premier chapitre. Donc, c'est vraiment pas une histoire de forme, c'est plus une histoire de fond. Et quand le premier chapitre est fini, je le réécris sur l'ordinateur. Et là, par contre, je me concentre sur la forme. Donc, et puis, ben, le fond, effectivement, je peux me rendre compte que ça ne va pas. Ça, c'est possible que je me rende compte que ça n'aille pas. Et c'est pour ça que je fais ce travail en amont, parce que je me suis rendu compte, si je passe sur l'ordinateur tout de suite, ben, y a des fois des choses que je verrai que quelques chapitres plus tard. Et ben, c'est un peu tard, donc il faudra s'y reprendre beaucoup plus souvent et ça va être plus fastidieux. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'avoir le travail à la main avant.
Alors, moi, je vous suis sur Facebook. Et sur Facebook, ce que j'ai adoré, c'est vous savez ce qu'il veut dire, ce tout petit mot, il est à la fois jubilatoire, angoissant, apaisant, grisant. Et ça, moi, je trouve que c'est, donc, c'est le mot fin d'une histoire. Et j'adore ce que vous marquez. Il marque la fin d'un tête-à-tête entre l'auteur et son bébé, le début de où l'autre se l'approprie et le commencement d'une nouvelle histoire. Chez vous, ça fait quoi ? C'est... Comment on peut expliquer de laisser son bébé à quelqu'un d'autre ?
Eh bien, en fait, c'est plein de choses à la fois. Comme je l'écrivais, il y a plein de sentiments contradictoires. Non seulement on est content parce qu'on est arrivé au bout de cette montagne, donc c'est un sentiment grisant, mais ça fait peur aussi parce qu'on va le laisser à l'éditeur qui va avoir forcément un esprit critique dessus. Alors, ça peut être forcément, ça va être très, très bien, je veux dire, en termes de formation. Enfin, on apprend toujours de ce qui ne va pas. Mais voilà, un auteur, par principe, doute toujours de ce qu'il écrit. Donc, on peut se dire, peut-être que ça ne va pas faire l'affaire. Peut-être que, voilà, on se pose plein de questions. Donc, cette phase déjà où on attend le verdict de l'éditeur est un peu stressante. Et après, je sais que chez moi, c'est le début d'un nouveau commencement parce que je sais qu'il y a d'autres personnages qui vont arriver et que ça va être le début d'une nouvelle histoire. Et ça veut dire que je laisse mes personnages... Ça y est, c'est fini, j'en ai fini avec eux, en fait, et je les ai emmenés au bout de là où je voulais qu'ils aillent. Et donc, j'ai adoré souvent l'histoire, parce qu'en général, on me demande quel livre préférez-vous de ce que vous avez écrit. Je dis toujours celui qui est en cours d'écriture, et d'ailleurs, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, ça voudrait dire que ce qu'on est en train d'écrire n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, j'ai vécu une super histoire avec mes personnages, mais je sais que ça y est, c'est fini. Donc, et puis après, le donner à d'autres. Alors, c'est chouette parce que, évidemment, l'éditeur va travailler après dessus. On sait que c'est très étrange, en fait, parce que c'est quelque chose qui sort de notre tête et on sait qu'il va y avoir plein de monde qui va travailler autour derrière. Il va y avoir d'abord mon éditrice qui va recorriger, qui va remettre en forme, voilà, qui va me dire ce qu'elle en pense. Il va y avoir les graphistes, il va y avoir tout le monde commercial, enfin tout le monde de l'édition qui travaille autour, et les correctrices aussi derrière, enfin les correcteurs ou correctrices qui travaillent derrière pour chasser toutes les moindres coquilles. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et c'est ça qui est formidable, quoi.
Et vous vivez ce travail d'équipe avec eux ou... Eux prennent le livre et le travail d'une certaine manière et reviennent vous voir à un moment ou un autre, ou on vous interpelle souvent pour vous parler de votre livre, pour vous dire voilà, j'aurais peut-être vu ça comme ça, ou et puis une autre question qui va en même temps, votre livre, vous l'écrivez en entier, est-ce que vous avez des bêta lecteurs avant de le donner à la maison d'édition?
Alors, au cours de l'écriture, j'ai ma meilleure amie qui me lit au fur et à mesure, déjà. Après, j'ai mon mari qui intervient aussi un petit peu plus tard et qui lit en entier avant que je le donne à mon éditrice. Et après, une fois que l'éditrice a lu, il y a une période d'attente, évidemment, où elle est en train de le lire et puis de partager aussi avec le responsable éditorial pour savoir s'il pense à la même chose. Et puis après, elle m'appelle pour qu'on fasse un point téléphonique de son ressenti général. En fait, elle va me dire, voilà, tel personnage, peut-être à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Il faudrait peut-être plus retravailler ça, etc. Mais là, moi, je n'y touche pas. J'attends qu'elle le retravaille, à l'écrit. Et après, une fois qu'elle a fini tout son travail édito, on appelle ça le travail édito, eh bien, elle me le renvoie pour que moi, je valide toutes les corrections qu'elle a apportées dessus. Donc, il y a des choses, peut-être que je ne serais pas d'accord, parce que, bah non, moi, effectivement, pour moi, mon personnage ne peut pas réagir comme ça, parce que ce n'est pas lui, ou alors... voilà, tant que ce n'est pas des fautes d'orthographe, évidemment, j'ai mon mot à dire, en fait. Donc, je suis toujours, en fait, consultée pour tout, même pour la couverture. On m'envoie des fois plusieurs modèles, lequel tu préfères. Voilà, et il n'y a pas de phase où je me sens mise à l'écart ou qu'ils ne me consultent pas. Je suis vraiment tout le temps intégrée dans tout le travail qu'il y a derrière.
Et pour les... je prends, par exemple, le manège de la vie. Vos personnages, bon, ils vivent une... ils ont une aventure bien compliquée parfois. Ils adorent les chevaux, mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Comment vous allez voir, parce que je pense que sur celui-là, on parle pas mal de la PMA ou des FIV. Comment vous allez en amont parler avec les gens ou comment vous rencontrez des gens pour parler des chevaux, pour pouvoir intégrer tout ça dans votre livre?
Ça fait partie du travail de recherche en amont. Du coup, pour le travail de PMA, je savais que je voulais aborder ce sujet parce que j'ai des personnes autour de moi qui l'ont vécu. Donc là, effectivement, je me suis tournée vers elle, en fait, pour prendre un maximum d'informations. Donc ça, c'est des heures où elle me parle et moi, j'écris. Donc là, tout le travail de recherche. Le travail aussi sur les chevaux. Moi, à la base, j'y connais rien du tout en chevaux. Et je voulais écrire sur ce milieu-là parce que, justement, aussi, je connais pas. Donc c'est toujours intéressant pour un auteur... d'aller à la rencontre d'autres univers. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un dans mon village qui tient une pension pour chevaux. Donc voilà, je suis allée la voir, cette personne. Et elle avait son jargon bien à elle. J'ai bien vite compris que je ne comprenais rien, justement, et qu'il faudrait faire un travail vraiment en profondeur sur tout le vocabulaire, tout cet univers-là. Il fallait que je me l'approprie complètement. Donc voilà, je vais voir les gens. C'est souvent des personnes que je connais, hein, plus ou moins, ou alors on m'oriente vers quelqu'un qu'une personne connaît. Et c'est, voilà, la personne me parle et moi, je suis la psy à côté qui note tout. Et c'est vraiment très enrichissant. Parce qu'après, en fait, ça fait partie de mon carnet de notes. Et c'est là où je puise de temps en temps pour aller chercher toutes les informations dont j'ai besoin. Et c'est vraiment ma Bible, en fait. Donc, après, il y a des romans où les sujets sont plus faciles à traiter que d'autres. Mais après, je me cantonne pas qu'à ça. Je vais aussi beaucoup lire sur les sujets. Je vais regarder sur Internet. Je vais regarder des films. J'ai besoin aussi de m'approprier surtout ce que ressentent les gens, en fait, par rapport aux... à ce que j'ai besoin par rapport au vécu, en fait. J'ai besoin surtout déjà de l'aspect technique des choses, mais aussi qu'est-ce qu'on ressent quand on vit ces choses-là, en fait. Moi, je peux mettre à la place de mes personnages, mais je ne l'ai pas vraiment vécu, donc j'aime bien aussi savoir ce que quelqu'un qui l'a vécu en profondeur, comment il le perçoit. Et ça, j'ai vraiment besoin de ça.
Et donc, pour le manège de la vie, vous allez... Vous avez écrit combien, vous avez eu combien de petits carnets?
Je ne saurais pas dire, je ne sais pas, peut-être 5-6. Comme j'écris, en fait, j'écris très mal dans mes carnets, donc ça prend de la place et je rature. Et, donc oui, il y a beaucoup de carnets, en fait, chez moi.
Et donc, tout à l'heure, vous nous disiez que... je vous disais... que vous aviez écrit sur Facebook, sur votre blog Facebook, donc votre dernier roman, ça y est, c'était la fin. Vous y aviez mis la dernière touche. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sans rien dévoiler de trop?
Alors là, j'ai voulu changer un peu parce que j'aime bien me mettre un petit challenge à chaque fois. Là, je me suis mise dans la peau d'un homme, donc c'est une autre façon de penser, voilà. Et j'ai écrit sur un homme qui commence par un burn-out, voilà. Et après, il y a toute la reconstruction derrière, et puis évidemment, il va repartir en quête de son passé pour essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il en est là aujourd'hui. Et voilà, c'est pas mal de rebondissements. Et pour finir, donc c'est ce que vous avez posté le 10 septembre 2023. Attention, je me tiens au courant. Vous avez noté ce post, je l'ai repoussé pendant des mois. Je vais m'arrêter là et je vous laisse la parole. Oui, en fait, ça fait quelques mois que j'ai arrêté mon activité professionnelle à côté du travail d'écrivaine. Voilà, en fait, j'avais du mal à le dire, je pense, parce que c'était, comme je l'expliquais dans le fameux post, c'était passer un peu d'autrice amatrice à autrice professionnelle, et c'était un peu un challenge. Moi, ça n'a pas été une décision facile à prendre, c'est clair, parce que y a le côté sécurité de l'emploi salarié, et moi, j'ai besoin de ça, enfin, de sécurité dans ma vie, au côté passion avec des risques. Donc j'ai choisi d'en arriver là aujourd'hui parce que les deux n'étaient plus compatibles et je pense que c'était le moment pour moi de le faire. Et voilà, en fait, je me sentais presque illégitime de le dire pendant quelques temps. Il m'a fallu un peu de temps pour pouvoir le dire sur les réseaux, mais j'ai eu besoin de ça et j'ai eu besoin aussi, comme toujours en fait dans mon aventure sur littéraire, j'ai besoin de savoir que les gens sont derrière moi, me soutiennent, et c'est vraiment le cas de ma communauté, donc vraiment... c'est chouette, c'est une très belle aventure.
Quand on voit les réponses sur les réseaux, on sait que vous avez du monde autour de vous. Vous faites pas mal de dédicaces, pas mal de rencontres, pas mal d'interviews aussi. Le prochain salon ou la prochaine rencontre, parce que, alors je vais revenir, vous faites pas mal de salons, mais des gros salons, comme dit plus petit salon comme le nôtre, et ça doit prendre sur votre vie professionnelle et sur la vie privée, ça prend beaucoup de temps. Donc je pense aussi le fait de passer en professionnel, c'est peut-être, ça va permettre de rééquilibrer certaines choses.
Oui, là, c'était devenu nécessaire parce qu'il y avait des semaines, j'enchaînais, j'avais pas de repos entre le travail en entreprise, l'écriture, les salons le week-end. Voilà, ça devenait vraiment très tendu. Et voilà, il fallait prendre cette décision, c'est sûr. Et donc, j'ai fait des petits salons comme le vôtre, mais je fais des plus petits salons aussi. Vous n'êtes pas un si petit salon que ça. Et la semaine prochaine, par exemple, je suis à Fontenay-le-Comte, là d'où je viens. C'est la première fois qu'ils organisent un salon littéraire, donc on sera une vingtaine d'auteurs. Donc voilà. Et après, effectivement, j'en fais des plus gros comme Brive. Je serai à Brive au mois de novembre. Donc voilà, c'est une chance aussi de pouvoir faire de tout.
De gros salons, et enfin de gros salons, de salons de portée nationale et internationale. Brive, Paris. Montaigu aussi, oui, pardon, je l'oubliais. Et puis, et vous allez dans toute la France ?
Oui, début octobre, je crois que je suis à Moinsartou, c'est à côté de Nice. Voilà, j'ai Colmar de prévu aussi. Donc, oui, effectivement, je vais partout en France. Et voilà, c'est une grande chance d'aller à la rencontre des lecteurs un peu partout parce que je me rends compte que j'ai des lecteurs un peu partout et c'est quand on fait les salons qu'on s'en rend compte en fait. Donc, c'est sûr que pourquoi je fais les salons ? Parce que c'est le moment d'échanger avec le lecteur et ce moment-là, il est vraiment important. Il n'y a pas que les réseaux, il n'y a pas que les messages qu'on peut recevoir des lecteurs qui sont toujours très, très sympas. Hein. Mais par contre, c'est bien aussi de les voir en vrai et je pense que pour eux aussi, les lecteurs qui nous suivent depuis le début, c'est un peu une reconnaissance aussi de nous rencontrer. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais pour nous, c'est vraiment très important. On a besoin de ça parce qu'on est dans un métier quand même, quand on est sur derrière notre écran ou sur notre cahier, c'est un peu solitaire. Et en fait, on ne sait jamais est-ce que c'est bien ce qu'on fait, est-ce que ce n'est pas bien. Et ce besoin d'être rassuré aussi, c'est vraiment important de savoir qu'on ne fait pas tout ça pour rien, en fait.
Vous avez les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, TikTok. Non, pas TikTok. Donc, il faut gérer tout l'ensemble. Là, maintenant, enfin, je vais dire que vous allez avoir plus le temps, mais je pense qu'il va y avoir du travail. Et donc, votre prochain roman, normalement, paraîtrait quand ?
Alors, ce sera le premier semestre. Je n'ai pas encore de période définie. Comme je l'ai rendu un peu plus tard que j'aurais dû, à cause de tous ces chamboulements dans ma vie pro, j'avais pris du retard. Et du coup, ce sera premier semestre, peut-être mai, juin, je ne sais pas encore précisément. Et après, voilà, je pense aussi me consacrer à d'autres projets, peut-être essayer de toucher à la littérature jeunesse, pourquoi pas, essayer de faire autre chose, mais toujours dans le milieu du livre, parce que j'avais l'impression en fait d'avoir deux vies complètement différentes et ça devenait aussi compliqué à vivre dans ce sens-là où on passe d'un côté à l'autre du jour au lendemain et c'était là voilà toucher le milieu littéraire tout le temps, c'est vrai que ça peut être sympa.
Oui, puis là vous allez rencontrer vraiment du monde, donc c'est important. Une petite question qui sera finale pour moi, est-ce que vous pourriez nous donner le titre de votre prochain roman, si c'est pas trop vous demander?
Alors je sais pas encore s'il va être conservé. Au jour d'aujourd'hui, il s'appelle Les rêves fous, mais voilà, je sais pas si ce sera encore le cas quand il sortira, sachant que mes premiers romans, en fait, j'avais toujours un titre qui servait juste à le nommer pour moi, mais qui est jamais resté en fait. Un titre provisoire, voilà, parce que j'avais pas envie de l'appeler roman 1, roman 2, roman 3. Donc je donnais un titre, mais c'était vraiment bateau. Je vérifiais même pas s'il était déjà pris ou pas. C'était là, j'aimerais bien qu'il reste, mais voilà, on en saura plus dans quelques mois.
On parlait de couverture parce que on parle de couverture, mais on parle aussi de quatrième de couverture. Le tout est important. Les couvertures de vos livres, ce que j'ai vu pour le manège de la vie, j'ai vu deux couvertures différentes. Il y en a deux, il y en a trois. Et pourquoi il y a des différences?
Là, il y a des différences pour le manège de la vie parce qu'il est sorti en version gros caractère. Donc, en version gros caractère, il change toujours la couverture. Ce n'est pas le même éditeur. Donc, c'est eux qui font le choix. Par contre, là, du coup, je ne suis pas du tout demandée. On ne me demande pas si la couverture me convient. Là, c'est l'éditeur qui choisit. Et après, il y en a une troisième pour le manège de la vie parce qu'il sort aussi chez François Zir. Et que là non plus, je n'ai pas été consultée, en fait. En fait, ils achètent les droits pour tant de livres et puis ils font leur petite sauce à côté. Donc, on m'envoie effectivement la couverture sans pour autant me consulter.
Les quatrièmes de couverture, parce que pour quelqu'un comme moi qui lit, les quatrièmes de couverture sont hyper importantes. Les quatrièmes de couverture, c'est vous qui les faites? Ou c'est la maison d'édition qui vous propose quelque chose?
Alors, la quatrième de couverture, j'ai jamais réussi à en faire une, à part pour mon premier quand j'étais en auto-édition, parce que j'avais pas le choix, c'était que moi. Et après, non, j'arrive pas, parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à vouloir trop en dire, je sais pas où m'arrêter. Et là, j'ai vraiment du mal, donc c'est ma maison d'édition.
Eh bien, je vous remercie, Delphine.
Je suis en compagnie de Sarah Blénaud, une jeune autrice, et qui va se présenter.
Alors bonjour, je suis Sarah Blénaud, donc auteure de romans plutôt historiques. J'écris depuis mon plus jeune âge, et donc mon dernier roman, Au bagne des enfants, est sorti en mai 2022, et retrace une histoire vraie, donc basée sur les colonies pénitentiaires pour mineurs qui ont existé à la fin du 19e siècle, et notamment celle de Tesson en Deux-Sèvres.
Et cette envie d'écrire, ça vous est venu comment ?
J'en ai aucune idée parce que je fais ça depuis toujours, donc c'est un complément de ma vie en fait. Oui, en fait, ça a commencé sur le tableau familial de mes parents. On avait un grand tableau à la maison et tous les soirs je racontais mes histoires sur le tableau. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu des vrais livres.
D'accord. Et vos ambitions?
Alors là, mon ambition actuellement, c'est de continuer d'écrire vraiment par passion, donc continuer de faire des romans à côté. Et en même temps, je suis en train de monter ma profession pour devenir biographe.
Je suis Christophe Labrousse, maire délégué de Saint-Léger de Martinière, et j'ai quitté l'éducation nationale en 92 pour fonder une école, ça fait 28 ans, qui accueille des enfants en rupture scolaire avec l'objectif de les remettre dans le circuit. Voilà, donc c'est l'école Dominique Savio à Saint-Léger, et je suis au salon du livre parce que je comptais présenter mon troisième livre qui malheureusement ne sort que la semaine prochaine.
Et le titre de ce livre ?
La porte des talents, préfacé par Yves Dutheil. Voilà.
Et ça raconte
l'histoire, pourquoi j'ai quitté l'éducation nationale, comment j'ai ouvert mon école avec 200 francs à l'époque à la banque et comment j'en suis arrivé là au bout de 28 ans.
Ça fait combien de temps que vous écrivez?
J'écris depuis 2009, Donc il y a eu une première porte des talents, suite donner du sens à l'école d'aujourd'hui, et je reprends la porte des talents parce que le titre est très révélateur, et c'est un... J'ai repris les meilleurs moments, on va dire, des deux livres. Voilà.
Et en même temps, vous êtes président d'une radio locale qui est...
Alors, vice-président de D4B, Amel.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
J'ai appris que vous avez été primé ce matin. Et pourquoi avez-vous été primé ?
Bonjour, alors je m'appelle Lucas Tatiasim et j'ai été primé pour le roman qui s'appelle La Forêt, qui a donc gagné le prix littéraire de la 9e édition du Festival du Livre de Niort. Ben, j'espère que j'ai été primé parce que mon roman a plu.
Et il raconte quoi, ce roman ?
Alors, en quelques mots, La Forêt, c'est l'histoire de 9 adolescents d'une douzaine d'années qui se perdent dans une forêt lors d'une sortie scolaire. Ils se réfugient dans une carrière, ils y passent la nuit. Donc le lendemain, ils essaient de partir dans la forêt pour trouver des secours, sauf qu'au bout de 2 heures de marche, ils reviennent dans la carrière d'où ils sont partis. Ils vont effectuer plusieurs tentatives pour le même résultat, et ils vont donc comprendre qu'ils sont prisonniers de cette forêt. Ils vont y rester longtemps, très 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 longtemps. Ils vont grandir dans cette forêt, apprendre à découvrir le bien, le mal. Et évidemment, dans cette forêt, il y a une menace qui rôde et qui les met en danger.
D'accord, et vous me rappelez le titre du livre ?
La Forêt, aux éditions Inceptio.
À ne pas manquer. Merci.
Merci à vous.
Bonjour, vous êtes donc Marie-France Fournier.
C'est ça.
Que faites-vous à ce salon du livre ?
Eh bien, je suis d'abord venue rencontrer des personnes et ça commence très très bien, vraiment, c'est très agréable. Et ben, j'essaie aussi de partager mon goût pour la lecture et l'écriture avec des personnes. Et là, j'ai une dame que j'ai rencontrée sur le salon qui était au rayon Leclerc. Je lui ai conseillé un bouquin d'un écrivain que j'aime beaucoup. On en a parlé, elle n'a pas acheté le livre, mais elle est revenue vers moi. On en a discuté toutes les deux. Elle a ouvert mes livres et elle m'a pris un livre. On a beaucoup discuté.
Vous écrivez des livres ?
C'est ça, exactement.
Ça fait combien de temps ?
Depuis 2013.
Et combien de livres à ce jour ?
4 recueils de courtes nouvelles et un album jeunesse.
Et le titre de cet album jeunesse ?
Une nouvelle histoire.
Qui raconte ?
Qui raconte l'histoire de deux personnages. Ça se passe dans une bibliothèque oubliée. Les gens ne lisent plus, donc les bouquins s'entassent. Et un jour, il y a des personnages qui s'évadent de leur livre et ils se retrouvent tous les deux et ils décident de partir pour d'autres aventures. Et à la fin de cet album, j'ai laissé des pages vierges pour que l'enfant puisse continuer l'histoire ou simplement dessiner son âge.
Et les prochains projets ?
C'est un brouillon pour l'instant, mais c'est en cours, mais c'est un projet. Dans 1 à 2 ans, 1 ou 2 années peut-être.
Bonjour monsieur, vous êtes au Salon du Livre, qu'est-ce qui vous a fait venir ici ?
Bonjour, je l'ai appris par mes parents qui m'ont dit qu'il y avait un Salon du Livre sur Niort et comme je ne suis pas très loin, je me suis déplacé.
Ce qui veut dire que vous êtes un lecteur passionné ?
Je lis de temps en temps, oui.
Quel genre de livre vous préférez lire ?
En ce moment, je lis plutôt des magazines, mais ça m'arrive de lire des livres du type The Witcher ou d'autres livres. J'ai une lecture assez variée.
Tonnier ?
Non, je suis de Saint-Michel École.
Ok, ben, je vous remercie. Bonjour, monsieur Bernard Martineau.
Oui.
Vous êtes ici au Salon du Livre pour présenter des livres que vous écrivez.
J'écris des livres depuis une dizaine d'années sur la région, particulièrement le Marais-Poitevin et sur Niort, destiné à tout public, les enfants et puis les adultes de 8 à 90 ans. Et le dernier, entre autres, c'est Histoire et Confidence des animaux du Marais-Poitevin, dans lequel je fais parler tous les animaux emblématiques du Marais et qui racontent leur vie et qui répètent ce qu'ils ont entendu de leurs parents, de leurs grands-parents, souvent, et des maraîchins, ce qui me permet de raconter l'histoire du Marais d'hier à aujourd'hui.
Oui, et ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce thème ?
Ça fait une dizaine d'années, et depuis une dizaine d'années, j'ai pratiquement publié un livre chaque année, entrecoupé d'un DVD avec des anciennes photos et d'un jeu de 400 questions sur le Marais. Et autrement, j'ai publié des livres dans des collections d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire que je compare un site ou un monument à un siècle d'écart, et j'explique l'évolution. Donc c'est presque des guides touristiques sur le Marais.
Qu'est-ce qui vous a amené à cela ?
C'est 2 choses. La première, c'est que ma famille avait énormément de documents, donc j'ai voulu les exploiter. Et la deuxième chose, c'est que je voulais en plus promouvoir la région, le Marais, le faire découvrir. Et ça a été les deux moteurs, véritablement, pour transmettre le patrimoine du Marais, qui est quand même très fragile, mais qui est très riche.
Bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonjour, Madame Sabine Ballery. Je vois que vous écrivez des livres pour enfants.
Effectivement, bonjour, je m'appelle Sabine, j'habite à Chartres et j'ai commencé cette belle aventure il y a 10 ans. Donc j'écris des livres pour les enfants de 3 à 8 ans et j'ai 4 titres, Barnabé se trouve, Sourisette n'en fait qu'à sa tête, Jojo fait son numéro et Colbert voit bien plus clair. Voilà.
Et aux éditions ?
BV Éditions.
BB Édition. Et donc, toutes les bonnes librairies, en principe, on trouve ces livres-là ou...
Oui, il y a moyen de se les procurer dans les librairies sans problème. Sinon, n'hésitez pas à aller sur mon site internet BB Édition.
BB Édition.
BV comme voiture.
D'accord. Voilà. Et donc, vous écrivez comme cela pour les enfants depuis combien de temps ?
L'aventure a commencé il y a 10 ans. À l'origine, j'étais infirmière et suite à des problèmes de vue, j'étais obligée de me reconvertir. Et l'écriture a toujours eu une place importante dans ma vie. Donc, je suis très heureuse de ce chemin parcouru et j'aime beaucoup la rencontre avec les enfants et leurs parents. Donc,
Bien, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour madame, qu'est-ce qui vous a amené au Salon du Livre ?
Je suis une très grande lectrice et j'ai deux enfants passionnés de lecture aussi. On en a profité, on fait quasiment tous les Salons du Livre.
Vous faites tous les Salons du Livre. Donc, quels sont les derniers livres que vous avez lus ?
Là, je suis sur une romance en 4 tomes sur les pompiers. Et sinon, je lis beaucoup d'histoires de Noël, j'adore.
Ça fait longtemps que vous lisez, je suppose ?
Oui, je ne peux pas dire depuis jeune. Combien d'années, je ne sais pas, j'ai 37 ans. Mais...
Et vous êtes de quelle commune ?
Saint-Hilaire-la-Palue.
Saint-Hilaire-la-Palue. Merci beaucoup. Bonjour, qu'est-ce qui vous a fait venir ici ?
Je m'appelle Geoffrey Leblay, donc je suis le neveu de Brigitte. Bon mot.
D'accord. Donc passionné du livre ?
Passionné de livres, passionné de généralement la majorité des histoires que je regarde, c'est surtout du post-apocalyptique, zombies, histoires surnaturelles, science-fiction. Surtout ça qui me passionne, livre ou autre, mais surtout livre.
Bien, on va parler à votre tante. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes ?
Brigitte Beaumont, je suis auteur.
Auteur.
Voilà.
De livres.
Policier, mythologie, fait de société, histoire vraie pendant la guerre. Je vais un petit peu partout.
Et ça fait combien de temps que vous écrivez ?
Depuis 2012.
Qu'est-ce qui vous a amené au livre comme cela ?
Alors, en fait, je suis comptable au départ. Je suis juste comptable. Et c'est un défi que m'a lancé ma fille et mon mari en me disant « Mais tu lis beaucoup, écris !» j'ai écrit.
Vous en êtes à combien de livres ?
15.
15 livres,
ouais.
Ce qui est déjà beaucoup. Et les éditions ?
Les éditions Rebelles.
Vous pouvez trouver le livre ?
Partout, chez tous les libraires. Les bons libraires, évidemment.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici, Clara ?
Bonjour, alors du coup je suis ici pour faire une animation manga, donc pour apprendre à dessiner les mangas.
Combien d'enfants venaient-elles ?
Alors ça va et vient pour le moment, mais on a 4 enfants actuellement, ça se passe plutôt bien, ils sont tous très contents.
Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Donc vous êtes ?
Laura.
Louis.
Laura.
Et alors qu'est-ce qui vous a amené à ce Salon du Livre ?
Découvrir de nouveaux auteurs.
Et le dernier livre ?
Un thriller.
Le signe plus bande dessinée.
La romance.
Les noms d'auteurs en mémoire ?
Oui, il y a Emma Landas qui sont chez Black Inn Edition, beaucoup chez Black Inn. À Iris de Salvatore, la première fois qu'elle vient à Niort pour son Salon du Livre.
Vous venez de quelle commune, sans indiscrétion ?
Faye-sur-Ardin.
Niort.
Faye-sur-Ardin.
Je vous remercie.
À une prochaine fois.
On vous embarque ?
On vous embarque ?
On vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rend compte des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rend compte des événements du Marais.
On vous embarque.